Nous allons étudier ce matin un message qui commence dans l'évangile de Jean. Nous allons ouvrir dans Jean 1 au verset 45 et nous allons lire quelques versets. Je lis donc Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit ce que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous remarquons tout de suite dans ce passage la confession extraordinaire de Nathanaël, un homme dont Jésus dit qu'il est un juif dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Et qui, certainement, lorsqu'il était sous le figuier, nous pouvons supposer qu'il était dans la méditation, probablement dans le repos. Et Jésus l'a vu même avant que Philippe puisse l'atteindre. Vous vous rappelez que quelques versets avant, Jean-Baptiste signalait aux disciples, ses disciples à lui, qu'il voyait passer Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, l'agneau de Dieu. Et c'est à ce moment-là que probablement Jean, l'auteur de cet évangile, et André, le frère de Simon-Pierre, ont suivi Jésus. Et un peu plus tard, donc, il s'agit de Nathanaël qui lui aussi va être touché par la grâce de Dieu. Au verset 49, nous avons lu, Nathanaël répondit et dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Cet homme, qui était certainement versé dans les Écritures juives, a réalisé que personne ne pouvait connaître ce qu'il faisait sous le figuier s'il n'avait pas la présence de Dieu en lui, s'il n'était pas ce Messie, ce roi d'Israël. Et c'est cette première confession de foi qui est le départ de la vie en Christ, si on peut dire, de Nathanaël. Et nous allons voir ce matin différentes étapes de notre vie, et vous verrez dans ce parcours que nous allons faire ensemble, essayer de repérer s'il y a des étapes dans lesquelles vous n'êtes pas encore parvenu, et repérer si dans ces étapes vous n'avez pas encore quelque chose à comprendre de la parole de Dieu. Donc notre première étape, c'est cette étape de confession de Jésus, fils de Dieu, roi d'Israël. Et dans le verset 51, quand Jésus lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, c'est évidemment une référence à l'échelle de Jacob. Dans Genèse 28, au verset 12 et au verset 14, je lis: Il eut un songe, donc Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 1 que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère envers de ceux qui doivent hériter le salut. Et nous savons que les anges ont exercé un ministère particulier envers le Seigneur Jésus à différentes étapes. Nous le voyons dans la tentation dans le désert, mais certainement quand Jésus a été fortifié à Gethsémané, dans différentes étapes de son ministère, certainement que les anges ont accompli des choses glorieuses pour soutenir le Seigneur. Et le verset 14 de ce même chapitre de Genèse nous dit: Ta postérité, et c'est la promesse que Dieu fait à Jacob, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et en fait, ce que je comprends dans ce passage, c'est que Nathanaël, entendant Jésus parler de cette référence à l'échelle de Jacob, certainement comprend aussi que Jésus, ce Messie, roi d'Israël et fils de Dieu, est celui qui va bénir toutes les familles de la terre. Et nous verrons, enfin nous le savons plus tard, Paul dira dans les Éphésiens que le mur de séparation a été aboli entre juifs et non-juifs et que toutes les familles de la terre ont vraiment été bénies dans ce peuple juif et surtout dans le Christ issu d'Israël et roi d'Israël. Donc Jésus révèle à Nathanaël qu'il est bien lui, Jésus de Nazareth, le fils de Dieu et de la postérité de Jacob, celui qui en fait accomplit toutes les promesses qui ont été donnés aux patriarches, l'aboutissement de toutes les prophéties messianiques est en Christ. Et c'est à ce moment-là que Nathanaël commence son périple, si on peut dire, avec le Seigneur dans la foi. Et Jean, plus tard, dira que Jésus était la parole de Dieu, était la lumière des hommes. Et je lis dans Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est la première étape, en fait, notre nouvelle naissance. C'est que, comme Jésus l'a dit à Nicodème un peu plus tard, l'étape de régénération est l'étape qui nous fait rentrer dans ce royaume de Dieu. Et c'est cette étape que Nathanaël franchit, si on peut dire. Je ne sais pas s'il est né de nouveau ce jour-là, mais il a en tout cas reconnu la messianité du Seigneur et le fait qu'il était fils de Dieu et le Messie promis à Israël. Donc cette étape de la régénération, qui est une étape que nous tous, enfin probablement avons fait, peut-être pas tous ici, mais une grande partie, c'est cette étape fondamentale qui nous fait encore une fois rentrer dans la marche dans le royaume de Dieu. Et c'est cette première étape à laquelle je faisais allusion que Nathanaël a vue en parlant, en répondant à Jésus comme il l'a fait. Mais nous allons voir maintenant que ces choses, parce qu'en fait ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus prophétise en fait à Nathanaël cette phrase « Tu verras de plus grandes choses ». Et c'est ça que j'ai voulu voir ce matin, quelles sont les plus grandes choses que Nathanaël va voir et que nous allons voir nous aussi dans notre vie. Alors je commence, donc première étape c'était celle-ci, et nous lisons dans Jean 1 verset 16 « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Je ne sais pas si vous comprenez quand on dit la plénitude de Dieu et grâce pour grâce, comme c'est une richesse sans fin à laquelle nous avons accès et qui va être notre vie, toute notre vie finalement. Nous allons progresser de richesse, de grâce en grâce, dans la richesse de cette grâce que Dieu nous a donnée. La loi, disait Jean 1, 17, a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Christ. Donc en fait, cette grâce promise, cette plénitude, tout est compris dans Jésus-Christ, tout est donné par Jésus-Christ. Rien en dehors de Jésus-Christ peut nous enrichir dans cette vie, à la fois sur cette terre et dans la vie éternelle qui nous est promise. La loi, en fait, nous a révélé notre incapacité. Elle était le pédagogue dont parle Galate. Elle nous a montré que nous étions incapables d'arriver à satisfaire la demande de justice de Dieu. Et c'est ce qui a un peu piégé les Juifs dans leur marche avec le Seigneur. Ils ont cru que par leur justice propre, ils allaient pouvoir atteindre l'observance de ce que Dieu attend d'eux. Et en fait, c'est la tragédie qui, même aujourd'hui, continue. Beaucoup d'hommes pensent que leurs œuvres et leurs bonnes œuvres et toutes leurs attitudes de générosité, de démarches humanitaires, leurs engagements et même leur réclusion dans des monastères, la mise à l'écart et tout ça peuvent leur gagner les faveurs du Seigneur. Et déjà, la loi nous montre que nous sommes incapables de répondre à ces choses. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains 10, 3, en parlant des Juifs, en fait, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à obtenir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En fait, quand il est dit Christ est la fin de la loi, c'est bien la fin de la loi, c'est-à-dire que la loi n'a plus son mot à dire sur le plan de la justification. Nous ne pouvons pas revendiquer quoi que ce soit, une propre justice, des œuvres ou quoi que ce soit, comme étant un moyen d'accès au Père. C'est Christ qui est la fin de la loi et qui nous justifie. Donc, vous voyez, il y a l'étape de la confession du Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'étape de la justification en Christ, dans laquelle la fin de la loi est reconnue et nous sommes justifiés parce que nous croyons sans les œuvres de la loi, comme dira Éphésiens 1. Nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres et nous progressons dans cette grâce renouvelée qui nous est donnée par Jésus au travers du Saint-Esprit. Une chose qui est étonnante aussi que j'ai soulignée dans ce passage, c'est que le Seigneur affirme à ses disciples un peu plus tard, Jean 16, verset 7, ses disciples sont affligés parce qu'ils entendent qu'il va partir, qu'il va quitter cette terre, et ils sont complètement retournés parce qu'ils comprennent pas comment ils vont pouvoir surmonter le départ du Seigneur. Il leur dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est étonnant de voir que le départ du Seigneur est avantageux pour ses disciples. Ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas encore reçu cette plénitude que le Consolateur leur donnera et qui leur ouvrira les yeux. Mais Jésus dit bien, c'est préférable que je vous quitte parce que vous allez recevoir une puissance, le Consolateur qui viendra sur vous. et que j'enverrai, c'est la promesse que le Père a faite. Et quand il sera venu, je continue au verset Jean 16, verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est cette conviction, hein, c'est reconnaître que nous sommes pardonnés par le sang de Christ, cette première étape de conviction. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, donc il est notre justice, nous l'avons vu à l'instant. Nous n'avons pas de justice propre et nous n'avons pas d'accès en dehors de la justice donnée par le Seigneur. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et ensuite, Jésus continue en disant, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez, nous sommes partis ce matin dans ce passage, tu verras de plus grandes choses. Et Jésus leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc Nathanaël savait qu'il allait voir de plus grandes choses. Et nous aussi, aujourd'hui, nous savons que nous allons vivre des choses de plus en plus profondes et qui nous rapprochent de cette plénitude dont parle le Seigneur. Mais il y a des étapes pour chaque chose et certaines choses ne peuvent pas être portées à certaines étapes de nos vies. Il y a une maturation, il y a un temps pour chaque étape de la vie spirituelle. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc cette promesse de Jésus qui dit « Il vous est avantageux que je m'en aille », elle est aussi contenue dans ce passage. Le Saint-Esprit, le Consolateur, vous dira ce qu'il a entendu, il vous annoncera les choses à venir. Ces choses dont Jésus disait un peu plus tôt qu'il ne pouvait pas les porter maintenant, il n'était pas capable de les entendre. Paul d'ailleurs dira les mêmes choses de temps en temps à ceux qui l'entouraient en disant « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore capable de les entendre, vous en êtes encore au lait et non pas à la nourriture solide ». Donc c'est beaucoup de choses que Dieu a encore à leur dire, que Jésus veut leur dire, que le Saint-Esprit va, si on peut dire, prendre le relais pour les annoncer à nous, en fait, dans notre marche. Ce qui est étonnant aussi, c'est de noter que les premiers disciples qui ont été au bénéfice de la présence de Dieu, du Maître, l'ont entendu enseigner, l'ont interrogé, l'ont vu ses miracles, ont pu lui poser des questions, ont pu être consolés par lui, ont pu comprendre différentes étapes. Et ils sont, on les voit dans Jean 20, 19, ils sont apeurés le soir de la résurrection parce qu'ils sont effrayés à cause de la menace des Juifs. Et on les voit dans ce passage, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, donc le premier soir de la résurrection, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Je vous signale qu'on est encore 50 jours avant la Pentecôte et déjà Jésus va leur communiquer une réalité du Saint-Esprit. Ils sont là, enfermés, si on peut dire, dans la crainte, parce qu'ils ont peur que les Juifs les menacent. Et en fait, nous sentons que ces mêmes hommes qui ont été au bénéfice de la présence du Seigneur, qui ont vu ces miracles, qui l'ont interrogé, qui ont cheminé pendant tout son ministère terrestre, sont là, cloîtrés et effrayés. Et Jésus se présente en leur disant « La paix soit avec vous ». Certainement que c'était les 11 réunis dans cette chambre cadenassée, si on peut dire. Et ce qui est intéressant, là, je voudrais vous signaler quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'au verset 22 de Jean 20, Jésus dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, vous vous rappelez que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit sur l'Église primitive, hein, sur les 120, tout ce qui va se passer après. Mais déjà, 50 jours avant, Jésus souffle sur eux et ces 11 réunis dans la peur reçoivent le Saint-Esprit. Ils vont pas encore recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va leur être conférée 50 jours plus tard, mais ils reçoivent la présence du Saint-Esprit en eux d'une façon particulière. Ils devront attendre 10 jours après l'ascension pour recevoir cette puissance tout à fait spéciale qui va transformer leur ministère, qui va faire d'un Pierre, qui était un homme instable et qui avait renié son maître, un homme bouillant et hardi pour proclamer l'évangile à la face de tous les Juifs, tous les chefs religieux qui l'entouraient et pouvoir gagner des âmes puisqu'on nous voyons qu'il y a 3000 sauvés dans la première intervention de Pierre après le baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte. Donc cette puissance d'en haut du Saint-Esprit, c'est une étape, une de ces étapes que Jésus a prophétisé à Nathanaël. Tu verras de plus grandes choses. Et c'est aussi parler de nous. Nous allons aussi voir des plus grandes choses. Et je m'arrête un petit peu sur la réalité du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même. Il a tous les attributs de Dieu. Il a tout ce que nous pouvons dire de Dieu, mais il a une mission particulière. Il a la mission d'appliquer, d'exécuter le salut en pratique. puisque Jésus est reparti, c'est lui qui fait le lien entre le Seigneur Jésus et notre vie terrestre. Et c'est lui qui va nous équiper, et c'est lui d'ailleurs qui nous régénère, c'est lui qui va œuvrer, pas lui seul, parce que les trois personnes de la Trinité œuvrent dans la sanctification, mais c'est lui qui va œuvrer particulièrement dans la sanctification. C'est lui qui va donner cette puissance du témoignage, c'est lui qui va faire que des hommes hardis et puissants dans leur ministère, qui ont pu gagner tant d'hommes au travers des siècles. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'Église et je remarque comment des hommes comme, bien sûr, Pierre, Paul, les premiers apôtres, mais aussi Étienne, le diacre, mais aussi Whitfield, Wesley, Moody et tant d'autres ont été saisis par la puissance du Saint-Esprit et ont pu accomplir des choses qu'ils n'auraient jamais pu accomplir sans cette autorité du Saint-Esprit sur eux. Et c'est cette plénitude, je voudrais m'arrêter ce matin pour vous dire que nous manquons des fois de cette puissance du Saint-Esprit parce que nous ne la demandons pas ou nous la demandons d'une mauvaise façon, peut-être avec des motifs qui ne sont pas des motifs purs, nous la demandons pour vivre une expérience, mais le Saint-Esprit est une réalité, c'est la personne de Dieu, c'est une personne. Nous sommes dans une intimité de communion avec le Saint-Esprit. Je vous rappelle que le Saint-Esprit a été le compagnon de route du Seigneur Jésus. Depuis le début, c'est lui qui a conçu Jésus dans le sein de sa mère. C'est lui qui a aussi œuvré pour le baptême que Jésus a reçu au Jourdain. C'est lui qui a accompagné le Seigneur dans toutes ses étapes. C'est lui certainement qui l'a soutenu et qui l'a accompagné dans l'étape de Gethsémané et de la croix, puisqu'il est dit que Jésus a offert sa vie au travers de l'Esprit éternel. Donc l'Esprit, ce n'est pas une réalité. Des fois, on dit être rempli du Saint-Esprit, on a l'impression d'une plénitude, d'un liquide, ou d'une réalité un petit peu mystérieuse, mais le Saint-Esprit est une personne sensible, douée des attributs divins, et qui est près de nous, et qui est très à l'écoute de notre marche, de nos soucis, et qui veut nous aider à progresser, qui veut nous conférer cette puissance. Et je me dis que souvent, nous prions pour des âmes sauvées, nous prions pour qu'il se passe des choses dans les églises, notre église et d'autres églises, et nous prions peut-être pas dans la bonne direction, en demandant au Saint-Esprit, justement, de nous revêtir, comme il l'a fait pour ses apôtres et ses hommes de l'histoire de l'Église, de cette puissance d'en haut, ce renouvellement, que nous soyons remplis vraiment de toute la plénitude. Plénitude, c'est-à-dire présence de cette personne du Saint-Esprit à notre côté, intimité de relation avec lui, un contact très particulier avec le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Finalement, nous sommes en communion avec Dieu le Père, avec Jésus le Fils, qui a donné sa vie à travers le sang de la croix, mais le Saint-Esprit qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, pris le relais, qui nous accompagne et qui veut nous équiper parce que les temps sont avancés, parce que beaucoup d'âmes doivent encore attendre l'Évangile et que si nous n'avons pas revêtu cette puissance d'en haut, nous sommes en défaut par rapport à ce que Dieu veut nous conférer. Donc c'est pour ça que j'insiste pour que nous ayons ce souci non seulement de l'Église et des âmes perdues, mais aussi du désir de prier avec des motifs purs, avec des motifs qui soient des motifs pour glorifier le Seigneur, afin que des convictions se fassent dans des âmes et qu'on vive des choses comme on a vécu dans les siècles passés. Il y a 25 ans, nous étions au Pays de Galles. Tous les 50 mètres, il y avait un bâtiment ancien, c'était une église. Lors du réveil du Pays de Galles, il y avait des églises partout et nous avons appris que les hommes qui étaient dans les mines, et tous ces hommes rudes qui étaient souvent des hommes qui buvaient, qui marchaient loin de Dieu, ils venaient par centaines, souvent en pleurs, avec une conviction de péché, et se tournaient vers le Seigneur parce qu'il y avait cette puissance d'en haut. Et quand le réveil vient de cette façon-là, quand le Saint-Esprit agit, il peut se passer plus en 3 jours qu'il peut se passer en 50 ans dans des églises non réveillées qui attendent et qui prient dans la mauvaise direction. Donc j'insiste, et je le fais vraiment à dessein, pour que nous soyons vraiment sensibles et sérieux dans notre prière pour demander cette présence de la puissance d'en haut pour que nous puissions vraiment être revêtus. Parce que sans lui, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, bien sûr, mais sans le Saint-Esprit aussi, nous ne sommes pas capables d'accomplir les œuvres pleinement que Dieu nous demande d'accomplir. Nous sommes dans un combat cosmique. Je vous rappelle aussi que ce combat est un combat tragique, mais à l'échelle universelle, et que nous avons en face de nous les œuvres de Satan, la puissance de Satan, les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, et que c'est avec les armes du Seigneur, mais aussi avec la puissance du Saint-Esprit, que nous pouvons vaincre, triompher et être des témoins avec assurance, comme Pierre l'a été, comme Paul l'a été aussi dans son ministère, comme Étienne l'a été, même au moment de mourir, puisqu'il a pu encore donner ses paroles que vous connaissez tous dans le livre des Actes. D'ailleurs, Paul dit une chose intéressante au 1 Corinthiens 2, verset 3. Il nous montre bien que c'est la présence du Saint-Esprit qui l'accompagnait. Il dit: « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. » voyez le grand apôtre Paul dire « J'étais dans un état de faiblesse auprès de vous ». Nous le voyons toujours comme un apôtre hardi, courageux, vainqueur et tout, mais j'étais dans un état de faiblesse, de crainte, vous voyez, de crainte aussi, et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez, c'est ça, la démonstration d'esprit et de puissance, non pas la sagesse, non pas les philosophies du monde, non pas les raisonnements, mais au contraire, ces raisonnements sont des forteresses de l'intelligence humaine, ils ne peuvent pas comprendre la sagesse de Dieu. Et il continue, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi, ce matin, n'est pas fondée sur une philosophie, elle est fondée sur une personne, sur Christ, mort en croix, et nous sommes dans cette réalité qui est loin de la compréhension des sagesses humaines et des philosophies de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur ajoute, et je dis ça parce que c'est dans le droit chemin de ce que j'ai lu au début, « Tu verras de plus grandes choses, Nathanaël, mais vous tous ce matin, nous tous, nous verrons de plus grandes choses. » Et Jésus dit encore cette promesse, Jean 14, 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, « il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Vous vivrez des choses plus grandes. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vous accompagnera dans des réalités plus grandes. Ça peut paraître surprenant, mais c'est une promesse qui sort de la bouche du Seigneur. Et ce sont ces plus grandes choses que nous attendons et que nous voulons vivre en ce siècle et en ces temps de la fin dans lesquels nous sommes aujourd'hui et dans lesquels il y a encore une œuvre à accomplir. Et encore une fois, cette œuvre ne peut s'accomplir pleinement que dans la plénitude du Saint-Esprit qui nous accompagne et qui veut nous revêtir. Et alors, comment est-ce que nous recevons cette puissance? Il y a une clé dans Luc 11, 13, dans la prière que nous formulons. Si, Jésus dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez, c'est le Saint-Esprit, encore une fois, dont Jésus parle. Donc, il nous faut venir devant le Seigneur dans la prière, et sachant que Dieu est un Père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants, ne pas avoir crainte de lui demander cette présence du Saint-Esprit pour que nous puissions être revêtus de cette puissance, de cette hardiesse qui nous donne accès à un témoignage qui gagne des âmes et qui glorifie le Seigneur. Et les demander avec insistance et avec importunité. Rappelez-vous le juge unique et la femme qui l'importunait pour avoir gain de cause. Un des versets précédents dans Luc 11 au verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Regardez l'insistance avec laquelle il faut demander ces choses, cette réalité du Saint-Esprit. Demandez au Père le Saint-Esprit et on vous donnera. Cherchez cette réalité. Cherchez-la pas pour vous, encore une fois, pas pour vivre une expérience, pas pour être émerveillé seulement, mais aussi pour pouvoir œuvrer dans le champ de Dieu avec la puissance qu'il veut nous communiquer. Et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Donc, demandons avec insistance, avec même importunité auprès du Père, parce qu'il est un Père, encore une fois. Il sait nos besoins, il sait que sans lui, nous sommes incapables d'accomplir ces choses. Il sait combien nous avons besoin de sa présence. Une autre étape que Nathanaël n'a pas encore vue, mais que nous voyons et qu'il verra plus tard, mais nous la voyons aujourd'hui, c'est qu'une des autres missions du Saint-Esprit, c'est de nous conduire non seulement dans cette puissance du témoignage, mais aussi pour la connaissance de la vérité des Écritures. Jean 8, 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous faire connaître cette vérité. Un peu plus tard, dans ses épîtres, Jean dira que l'Esprit lui-même est à nos côtés pour nous ouvrir les Écritures, et c'est lui qui nous indique, qui nous ouvre les yeux, et il les ouvre à ses enfants. Le monde ne peut pas connaître ces choses, dira Paul. Ce sont uniquement les enfants de Dieu régénérés qui peuvent comprendre ces réalités de l'esprit. Et cet affranchissement commence dès le début de notre marche dans le salut. Dès le tout début, dès que nous sommes régénérés, la lumière des Écritures s'ouvre à nous. Nous comprenons la justification par le sang du Christ, Christ crucifié, rien d'autre. Paul se vante que de ça, Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous voyez, ce n'est pas la sagesse des hommes, ce n'est pas les philosophies, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Il n'y a plus de distinction juif et grec ici. Tous ceux qui sont appelés sont ici ensemble dans une nouvelle réalité qui est l'homme nouveau, cette réalité d'Éphésiens dont Paul nous dira en long et en large différentes réalités. Le mur de séparation est tombé, il n'y a plus cette séparation. Les Juifs se sont targués d'avoir reçu les Écritures, d'avoir reçu les lois cérémoniales, d'avoir reçu les prophètes et tout ça, mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient des émissaires dans le monde pour pouvoir montrer le chemin de Dieu aux nations et que les nations avaient reçu des promesses aussi de salut. Et donc, c'est ça le mur de séparation, c'est cette espèce d'enorgueillissement. Et je trouve ça très frappant de voir que Paul, qui était l'apôtre qui a le plus persécuté, si on peut dire, un de ceux qui a le plus persécuté l'Église primitive, et certainement avant la naissance de l'Église, a été un homme rempli de sa propre justice et de sa connaissance. C'est ce même homme que Dieu va appeler à gagner des âmes dans le monde païen. Et c'est ce même homme qui va écrire cet épître aux Éphésiens et qui va entendre ces révélations de la sagesse de Dieu qui a fait tomber ce mur de séparation parce que Dieu a voulu réunir en un seul homme, une seule réalité, l'Église, le corps de Christ, juif et non-juif, en une seule réalité. Donc en Christ, nous sommes tous ensemble dans cette nouvelle réalité du corps et de l'homme nouveau dont parle Éphésiens. Donc il n'y a plus cette distinction, bien que nous puissions dire qu'il y a notre frère d'origine togolaise qui est au milieu de nous, il y a celui qui vous parle en ce moment qui est d'origine juive, mais dans cette réalité du corps, nous sommes tous logés à la même enseigne, nous avons tous été convaincus par cette conviction de péché dont nous disons que le Saint-Esprit était une de ces réalités, c'était la conviction de péché. Et cette conviction de péché nous nivelle tous au même niveau. Il n'y a pas un parmi nous ce matin qui peut dire « moi je suis venu à la connaissance du Seigneur sans avoir pu passer par cette conviction de péché ». Ça nous met tous au même niveau, juif et non-juif, encore une fois. Et Paul, cet homme qui a certainement marché dans un respect profond de la loi juive, qui avait été instruit dans la connaissance des Écritures et tout ça, lui aussi a dû passer par cette étape douloureuse, mais cette étape qui nous nivelle et qui nous permet d'être, comme dira Paul dans Romains, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour pouvoir faire miséricorde à tous. Donc nous sommes tous logés à la même enseigne, enfermés dans cette désobéissance pour que Dieu puisse se pencher vers nous et nous offrir le chemin de salut en Jésus-Christ. Paul annoncera aussi cette réalité, encore une fois, de Christ crucifié en 1 Corinthiens 2, verset 2. « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Christ, Jésus-Christ crucifié. » Vous voyez, c'est ça la centralité du message de Paul. Il ne parle plus de ses origines, il ne parle plus de son cheminement parmi les pharisiens, tout ça. On voit un homme humilié, il dira « Je suis le moindre de tous les apôtres, l'avorton », parce qu'il a réalisé comme ce nivellement par cette conviction de péché nous met tous dans cette réalité du corps. Vous vous rappelez que 1 Corinthiens 12 nous dit bien que le corps, Paul prend un autre exemple, celui du corps humain, et l'œil ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi, etc. Mais la vocation de l'œil, c'est de voir, c'est pas d'entendre, c'est pas de sentir. La vocation de l'oreille, c'est d'entendre, c'est pas de voir. Donc ne soyons pas ni jaloux, ni envieux. Nous avons tous reçu des dons particuliers. Nous avons tous une place dans cet édifice de Dieu et nous avons tous une mission à remplir. Chacun pour soi-même, mais tous ensemble dans cette unité du corps. Donc ne soyons pas en tiraillement, n'ayons pas d'envie les uns des autres, n'ayons pas de jalousie, sachant que nous sommes dans un édifice glorieux et que c'est un privilège immense d'avoir été appelé dans cette unité du corps que Paul démontrera, développera dans le passage des Corinthiens que j'ai cité. Alors nous progressons encore. Je continue dans ma progression de ce que Nathanaël avait entendu, tu verras de plus grandes choses et nous découvrons émerveillés une plus grande chose encore, Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pourquoi Dieu nous a élus avant la fondation du monde? C'était son choix, c'était sa décision, c'était son décret éternel, mais avec une application particulière pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et là, nous atteignons cette page de la sanctification. Nous allons parler de la reconnaissance du Christ, Fils de Dieu, par la justification en Christ. Et là, nous atteignons la sanctification. Vous voyez, ces plus grandes choses continuent à se développer dans notre vie. Et cette sanctification n'aura pas de fin jusqu'à ce que nous soyons enlevés avec le Seigneur. Nous continuons à progresser dans cette réalité de la sanctification qui est mentionnée dans ce chapitre d'Éphésiens 1 au verset 4. Et ensuite, nous continuons dans ces plus grandes choses. Et nous arrivons au livre des Hébreux où l'auteur nous dit que nous avons un souverain sacrificateur dans le tabernacle éternel qui intercède pour nous et qui remplit cette mission de sacrifice. Hébreux 5, 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais nous sommes lents à comprendre, et Jésus l'avait dit souvent à ses disciples, combien vous êtes lents à comprendre les réalités que je vous indique. Parce qu'Hébreux 5, 11 nous dit, nous avons beaucoup de choses à dire, de nouveau, beaucoup de choses à dire. Jésus l'avait dit, beaucoup de choses à dire, mais vous n'êtes pas capables. Et l'auteur dit aussi, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous êtes devenus avoir besoin du lait, et non d'une nourriture solide. Donc c'est un reproche un petit peu que l'auteur fait, mais que Jésus aussi faisait, avec beaucoup de, certainement de douceur, mais de fermeté en même temps. Nous sommes lents à comprendre, parce que nous devons aussi laisser le Saint-Esprit nous ouvrir toutes ces écritures et continuer à progresser dans la lecture, la compréhension, et demander au Seigneur de nous assister dans l'ouverture des écritures, pour que nous puissions comprendre ces grâces sans fin qui sont à notre disposition. C'est pour ça que Pierre dira un peu plus tard, 2 Pierre 3,18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Il recommandait à ses disciples et ceux qui l'entendaient de croître dans cette grâce et dans cette connaissance, que nous ne soyons pas lents à comprendre, mais que nous comprenions avec l'assistance du Saint-Esprit ces choses et que nous puissions vivre ces étapes de la croissance que Dieu nous donne à vivre. Ce même apôtre Pierre, d'ailleurs, dira des choses étonnantes dans la première épître. Il dira, en parlant de ceux qui étaient dispersés, de ses frères juifs et qui souffraient les persécutions, il leur dira, vous vous réjouissez, quoique vous ne l'ayez pas vu. Ils n'ont pas vu, la plupart d'entre eux n'avaient pas vu Jésus, n'avaient pas été présents dans son cheminement terrestre. Vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire. Et donc, c'est cette réalité de joie inexprimable et pleine de gloire aussi que le Saint-Esprit veut nous donner à vivre. Est-ce que nous vivons cette joie? Est-ce que nous sommes animés par la joie de ces réalités spirituelles? Animés par la joie de ces étapes dans lesquelles nous progressons, comme Nathanaël a progressé, et qui nous font arriver à ces étapes que nous citons, que nous énumérons ce matin, mais qui sont des réalités expérimentées, que nous devons expérimenter par la présence du Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit, et par notre marche dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Et je continue, parmi toutes ces étapes, nous arrivons à la révélation de nombreuses réalités, encore une fois expérimentées dans nos vies. Écoutez celle-là, Jean 14, 20. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Est-ce qu'on réalise, vous êtes en moi, je suis en vous. Notre union avec Christ est encore une autre réalité. Notre union quotidienne avec le Seigneur. Et un peu plus loin, verset suivant. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Puis Jean 14, 23, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et écoutez cette parole, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Non seulement union avec Christ, mais union avec le Père, le Fils et forcément le Saint-Esprit qui est en nous depuis notre génération. Réalisez que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu nous prépare dans cette marche, dans la sanctification, dans la crainte de son nom, dans la progression par le Saint-Esprit à être ce temple dans lequel le Saint-Esprit, non seulement le Saint-Esprit, mais le Père et le Fils habitent en nous. Et encore cette extraordinaire réalité de notre position en Christ, de l'amour du Père envers ses enfants, Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est votre position ce matin. Vous êtes ressuscités avec lui et assis ensemble, nous tous ensemble avec lui dans les lieux célestes. Notre corps n'a pas été encore acheté, mais notre esprit est avec le Seigneur dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc nous étions dans le conversion, justification, sanctification, glorification qui vient maintenant, l'union avec Christ, l'union avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et la glorification qui vient afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Dans les siècles à venir, notre position en Christ montrera cette richesse de sa grâce et de la bonté envers nous que le Père a eue en Jésus-Christ, quand notre corps mortel et corruptible sera transformé. Bien sûr, nous portons ces trésors de la grâce dans des vases de terre. Et Paul dira, Éphésiens 3,8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Dans ce vase de terre, cette grâce d'annoncer les richesses incompréhensibles, on ne peut pas les comprendre, ces richesses, elles sont sans fin. Depuis le début, nous avons vu toutes ces richesses, mais elles s'accumulent, elles ne prendront pas fin. Et c'est Paul, l'ancien persécuteur, qui maintenant annonce ces choses aux gentils. D'ailleurs, il dira dans Éphésiens, en parlant du péché dans lequel nous étions tous, il dit « Vous marchiez dans ces choses » et après il dit « Nous tous étions de leur nombre ». Donc il se met dans l'eau. Il ne dit pas « Vous », mais il dit « Nous tous étions de leur nombre ». Paul aussi était du nombre des pécheurs, comme nous tous. et son seul désir, qui doit être le nôtre ce matin, c'est de parvenir à la connaissance de Christ, Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, et connaître le mystère de Christ dont parle Paul aux Colossiens, connaître le mystère de Dieu, sauver Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je rappelle, ces mystères sont une folie pour l'homme mortel, l'homme non régénéré, mais la sagesse de Dieu pour ceux qui sont ses enfants. Parce que le verset 9 de Colossiens 2 nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Vous voyez, toute la plénitude dont nous parlions tout à l'heure, grâce sur grâce, gloire sur gloire, cheminement dans ces choses incompréhensibles de la grâce de Dieu. Toute cette plénitude est en Christ, en lui corporellement, dans ce Messie, dans sa chair, dans les jours de sa chair. Toute la présence, toute la plénitude de Dieu demeurait, et c'est lui qui parle à Nathanaël et qui lui dit « Toutes ces choses, tu les verras, toutes ces plus grandes choses. » Et ça ne finira jamais. Et Paul aux Éphésiens dit « L'amour de Dieu, que Dieu nous a, avec lequel Dieu nous a aimés, c'est un amour. » J'aime bien dans le grec, quand on lit bien mot par mot, son grand amour avec lequel il nous a aimés. Ce n'est pas le grand amour de Dieu, c'est son grand amour. Si c'est Dieu qui nous aime et que c'est son amour, alors quel amour ça doit être ? C'est pas seulement l'amour de Dieu général comme un père qui dit « j'aime mes 5 enfants », c'est son amour particulier pour chacun de nous qui va nous révéler ce matin à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Éphésiens 3:16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié. Soyons fortifiés ce matin par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, ce même amour de Dieu, son grand amour dont nous venons de parler, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Regardez, Nathanaël avait juste connu la présence du Messie qui passait, dont Jean-Baptiste avait dit « Voici l'agneau de Dieu ». Mais là, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, ce n'est pas des petites promesses, c'est toute la plénitude de Dieu que le Saint-Esprit nous conduit à voir, entrevoir et à cheminer. Comprendre avec tous les saints, être fortifié par l'Esprit dans l'âme intérieure, comprendre toute cette plénitude, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus du Seigneur si ce n'est la gloire à venir et ce temps que nous passerons avec lui dans l'éternité. C'est pour ça que Paul, dans 2 Corinthiens 3:18, nous dit « Nous tous, et c'est nous tous ce matin, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » C'est un peu comme dans un miroir, tout ce que nous disons ce matin, ce sont des réalités un peu voilées, parce que nous rentrons dans ces réalités par étapes. Il faut que le Saint-Esprit nous les ouvre et nous les verrons un jour face à face. Mais nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit encore qui intervient ici, dans notre transformation, la même image que Christ. Je vous rappelle que la sanctification, c'est cette étape, ce sont ces étapes dans lesquelles nous sommes transformés dans l'image de Christ, afin que nous puissions représenter comme une Église sans tache, sans ride et irrépréhensible devant le Seigneur dans la gloire éternelle. 1 Corinthiens 13:12 dit à peu près les mêmes choses. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Aujourd'hui, c'est obscur. Nous lisons beaucoup de passages ce matin. Nous touchons à beaucoup de réalités, mais c'est encore obscur. C'est pas comme nous connaîtrons, mais c'est déjà énorme ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous vous rendez compte ce qui nous attend? Alors, nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est ce qui va arriver bientôt. Et même dans sa présence, nous progresserons éternellement dans la révélation de la gloire et de l'amour de Dieu, parce que Dieu est infini, son amour est infini. Il n'y aura pas de fin à ce cheminement dont Nathanaël n'a juste entendu que la promesse « tu verras de plus grandes choses », mais ces plus grandes choses vont s'accumuler dans l'éternité et dans la connaissance de la révélation, de toutes ces révélations que Dieu veut nous communiquer quand nous serons dans sa présence. Alors ce matin, je m'arrête pour conclure en disant, mais aujourd'hui, je ne sais pas les uns les autres, où vous êtes parvenus dans toutes ces choses, mais où que nous soyons parvenus, la grande clé, c'est de ne pas nous retourner en arrière, c'est de ne pas dire, bon, je reste à cette étape de la conversion, c'était formidable, j'ai cru que Dieu a envoyé son Fils qui est mort pour mes péchés, et je m'arrête là, non. Vivez toutes ces expériences, elles sont toutes riches, elles ont toute une réalité profonde que Dieu nous donne à vivre. Ne restez pas les yeux sur votre passé, sur votre péché, ne laissez pas l'ennemi vous condamner, quelle qu'ait été votre faute, vos péchés dans le passé, ne laissez pas l'ennemi venir vous accuser, Parce que Paul dira dans Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Et donc ne restez pas en train de vous lamenter parce que nous tous, il n'y a pas une personne parmi nous ce matin qui ne peut pas dire, j'en suis convaincu, si je pouvais refaire ma vie, j'aurais fait d'autres choix dans certaines étapes où j'ai fait des erreurs, où j'ai commis des choses que je voudrais bien ne pas avoir commises. Et bien je vous le dis, nous sommes tous là aussi nivelés par le Saint-Esprit, par cette conviction de péché qui nous met tous au même niveau. Nous tous pouvons dire des choses à ce niveau-là. C'est pour ça que Paul dira, Philippiens 3, 13, frères, je vous le dis ce matin, parce que l'Écriture nous le dit, frère, je ne pense pas avoir saisi ce prix. Hein, il parle du prix. J'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est ça notre chemin, c'est de courir d'étape en étape, assisté par le Saint-Esprit, priant pour recevoir la plénitude de ce Saint-Esprit que Dieu veut nous donner. Et nous réjouissons de la gloire qui vient bientôt, car il ne fait aucun doute que cette gloire vient bientôt. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais nous pourrions débattre là-dessus et dire que les choses que nous voyons aujourd'hui nous laissent penser que nous arrivons vraiment à l'extrémité, à l'accomplissement des prophéties finales. Hein. Ne serait-ce que la présence de la Russie à la frontière nord d'Israël et puis de l'Iran par l'intermédiaire du Hezbollah, toutes ces choses qui sont mentionnées dans Ézéchiel 38-39, rien que ces derniers développements de l'histoire politique d'aujourd'hui nous laissent penser que nous arrivons vraiment à frôler ces événements finaux dont seul Dieu connaît la réalité et le temps et la date. Mais cette espérance est en nous. Et parce que nous avons cette espérance, l'apôtre Jean nous dira, parce que nous espérons ces choses, alors nous nous purifions comme lui-même est pur. Donc faisons aussi cette démarche de continuer à nous purifier, de nous rapprocher du Seigneur, de nous laisser sanctifier, de mettre à mort les œuvres de la chair en nous, afin que nous soyons de plus en plus proches du Seigneur et que le Saint-Esprit ait un plus grand accès pour que nous soyons remplis de sa présence. Parce que c'est ça aussi le but, c'est que nous puissions être remplis de toute cette plénitude de la présence du Saint-Esprit. Et je conclus par cette parole de Paul, quand il dit dans Romains 8, 18 et Romains 8, 17, « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, c'est ce que nous venons de dire, nous allons être glorifiés bientôt avec le Seigneur, il faut souffrir avec lui. » Et cette promesse extraordinaire pour vous tous qui souffrez, et nous tous qui souffrons ce matin, d'une façon ou d'une autre, Paul dira cette chose extraordinaire, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Vous voyez, nous souffrons d'une façon ou d'une autre, nous avons des épreuves particulières. Nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir, mais rappelons-nous, nous faisons partie d'un corps. Nous sommes des pierres vivantes dans un édifice vivant que Dieu construit petit à petit. Éphésiens nous le dit bien, tout ça. Nous sommes un corps, et dans ce corps, nous sommes en relation les uns avec les autres, harmonieusement situés les uns par rapport aux autres, comme un édifice harmonieux. Chaque pierre n'est pas mise n'importe où. Chaque pierre est mise à la place que Dieu a décidé. Et nous sommes une unité dans le corps. Et la souffrance que vous vivez particulièrement, elle est aussi portée par l'unité du corps. Et si vous souffrez d'une réalité particulière, elle concerne le corps entier. C'est pour ça qu'il est dit que si nous souffrons, de nous réjouir avec ceux qui souffrent et que de porter les fardeaux les uns des autres et que notre souffrance est une souffrance qui interpelle le corps entier. Donc réjouissons-nous de cette réalité aussi du corps, ce nivellement dans la réalité de notre achat, de la rédemption, et soyons consolés par cette réalité. C'est le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous console de nos souffrances du temps présent, parce qu'il nous montre aussi, et c'est sur ça que je finis ce matin, il nous montre la gloire à venir qui va être révélée bientôt pour nous tous. Encore un petit peu, encore quelques années, peut-être, je ne sais pas, quelques décennies, Dieu seul le sait, et nous sommes dans cette gloire éternelle. Laissons-nous consoler par cette réalité, et que le Seigneur ancre ces réalités ce matin dans nos cœurs, pour que nous puissions vivre de ces réalités et lui rendre gloire et grâce pour toutes ces promesses qu'il avait commencé à laisser entrevoir à Nathanaël et qui vont jusqu'à nous aujourd'hui et qui continuent parce que d'autres âmes ont besoin de les entendre. Et parce qu'elles ont besoin de les entendre, soyons équipés. Et pour être équipés, demandons encore une fois au Saint-Esprit de nous remplir, de nous visiter de toute la plénitude qu'il veut nous donner, qu'il veut nous communiquer et dont nous avons trop souvent été défaillants ou timides pour les demander. Elles sont là à notre disposition. C'est comme ça qu'il y a eu des réveils. Les réveils ne sont pas que dans l'histoire de l'Église. Les réveils sont aussi pour aujourd'hui, si nous sommes à genoux, si nous prions avec ferveur, si nous prions de façon désintéressée, si nous n'avons qu'une chose en vue, c'est la gloire du Seigneur et rien d'autre. Que le Seigneur bénisse sa parole.